Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. Saviez-vous que le risque de thrombose vasculaire sur des vols long courriers concernait un passager sur 4000 en 2019? Sur les 4,5 milliards de passagers, plus d'un milliard ont effectué un vol long courrier. Je vous laisse faire le calcul. Faut-il pour cela interdire les avions? Après moult rebondissements, validation, suspicion, discussion, suspension, revalidation, enfin la vaccination a repris ses droits dans les pharmacies après de nombreux jours bêtement perdus. Pierre-Xavier Franck, pharmacien, directeur général du groupe Giffard, est notre invité sur le plateau de Check-up Santé. En cette période très particulière, plus que jamais, l'activité physique est salutaire pour notre santé psychique et physique. Et les accessoires pour l'améliorer sont toujours plus performants, plus fiables, connectés ou pas d'ailleurs. Pascal Billy, directeur général de Compex, va nous le démontrer. Enfin, nous connaissons tous les médicaments génériques, identiques aux médicaments chimiques, mais nous connaissons moins bien les médicaments biosimilaires, équivalents des médicaments biologiques, qui pourraient pourtant engendrer des centaines de millions d'euros d'économies s'ils étaient plus utilisés. Didier Laloy, directeur général chez Biogen, en charge des biosimilaires, est notre invité dans Check-up Santé. Check-up Santé, la seule émission toujours pas génériquée, c'est parti. Didier Laloy, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors bienvenue, merci d'être parmi nous dans le Check-up Santé. Vous êtes pharmacien à l'origine, vous avez fait Sciences Po, SCP, vous êtes dans la pharma depuis des décennies, sans vouloir vous vieillir, et c'est vrai d'ailleurs.
Absolument.
Et vous êtes chez Biogen en charge, directeur général en charge des médicaments dits biosimilaires. Biogen, c'est une biotech américaine, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Qui n'est pas née d'hier.
Alors Biogen est une entreprise de biotechnologie qui a été créée il y a près de 40 ans par des chercheurs, et dont deux qui sont devenus prix Nobel.
Oui, et donc c'est une biotech qui est spécialisée plutôt dans les neurosciences.
Alors tout à fait, on est pionnier en neurosciences en France et dans le monde. Donc, pour vous donner quelques exemples, Biogen est leader mondial dans la sclérose en plaques. Un patient atteint de sclérose en plaques sur deux est traité par un médicament Biogen. Et puis, nous avons récemment aussi mis à disposition des patients un traitement dans l'amyotrophie spinale. Et pour aller plus loin, nous travaillons sur des maladies difficiles pour lesquelles il n'y a pas de solution, comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Charcot.
Et la maladie de Charcot, la SLA, c'est ça?
FCV.
Sclérose latérale amyotrophique. Vous êtes en charge des médicaments biosimilaires. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un médicament biologique par rapport à un médicament chimique?
Alors, vous avez raison, il y a deux grandes catégories de médicaments. Il y a les médicaments chimiques que l'on connaît tous, qu'on prend tous les jours, un anti-inflammatoire, un antalgique, voilà, ce sont des médicaments chimiques. Les médicaments biologiques sont issus du vivant, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués par des organismes vivants, par des cellules, et on les fabrique par biotechnologie, parce qu'ils sont trop complexes et on ne peut pas les fabriquer par voie chimique.
Et ce sont des protéines en général?
Ce sont des protéines qui ont une activité spécifique, souvent ciblée, et qui traitent des maladies très sévères. Je vais en prendre quelques exemples. La maladie de Crohn, par exemple, qui est une maladie inflammatoire de l'intestin.
Toutes les maladies auto-immunes, en général.
Exactement, ouais. La polyarthrite rhumatoïde, les spondylarthrites, le psoriasis sévère, toutes ces maladies sont traitées par des médicaments biologiques.
D'accord, donc un biosimilaire, c'est un petit peu le générique des médicaments biologiques.
Alors, le générique, c'est pour le médicament chimique. Oui. Le médicament biosimilaire, c'est le médicament, c'est une nouvelle version d'un médicament biologique qui a perdu son brevet.
D'accord, donc il faut évidemment que, comme pour les génériques des produits chimiques, il faut évidemment que le princeps ait perdu son exclusivité, c'est
absolument
ça? Absolument. Une fin des brevets, de la période de protection des données, c'est combien d'années déjà?
Ça peut être 20 ans. Ouais. Parfois, il peut y avoir une extension. Mais c'est effectivement à la chute du brevet que les médicaments biosimilaires peuvent être mis sur le marché.
Oui. Alors ces biosimilaires, ça existe depuis longtemps, non?
Le premier a été lancé en 2006. C'était une hormone de croissance en Europe. Donc on a maintenant un recul très important. Donc on connaît leur efficacité, on connaît leur tolérance. Ouais. Et depuis plus de 15 ans, on s'aperçoit qu'ils apportent les mêmes bénéfices que les médicaments d'origine.
Et l'insuline, c'était un des premiers médicaments biologiques, non?
Tout à fait, oui. Oui. Absolument.
Qui est largement antérieur à 2006.
Oui, tout à fait.
Oui. Donc, alors évidemment, le biosimilaire par rapport... on a toujours tendance, évidemment, naturellement, à faire un parallèle entre le générique des produits chimiques. Un médicament générique, il est exactement identique au médicament chimique. Tandis que pour le biosimilaire, c'est pas vraiment le même que le principe biologique.
Alors tout à l'heure, vous m'avez demandé si c'était des protéines. C'est effectivement des protéines. La protéine est la même. Mais le laboratoire qui fabrique le biosimilaire va utiliser un processus différent, processus de fabrication différent. Donc le produit final, c'est le même traitement, équivalent au produit d'origine. Il y a des petites différences, mais qui n'apporte aucune différence ni en efficacité, ni en tolérance, ni en qualité pour le patient.
Parce que j'imagine que ce n'est pas facile de copier le vivant, quoi, non ?
C'est quasiment impossible de copier le vivant, et c'est la beauté du vivant. On peut copier une molécule chimique, on ne peut pas copier complètement une molécule biologique.
D'accord, alors comme ils sont évidemment pas complètement identiques, hein, est-ce qu'ils sont plus contrôlés sur le plan réglementaire ?
Alors, le développement des biosimilaires est extrêmement bien cadré par les agences internationales, hein, la FDA ou l'agence européenne. Donc, les guidelines sont très très clairs. La différence avec le générique, c'est que d'abord, ça dure plus longtemps, c'est beaucoup plus coûteux, hein. Le développement d'un biosimilaire, c'est 100 fois plus coûteux que le développement d'un générique. Parce qu'on fait également des études cliniques, puisque jusqu'au bout, on compare le biosimilaire aux médicaments d'origine, jusqu'à la clinique, puisqu'on fait des études cliniques avec des patients.
Donc, plus de contrôle.
Mais en termes de contrôle dans la vraie vie, c'est exactement la même chose que n'importe quel médicament biologique. Il n'y a pas de spécificité aux médicaments biosimilaires, on les contrôle de la même façon.
Alors c'est biosimilaire, donc vous l'avez dit, c'est pour des médicaments, pour des maladies auto-immunes, peut-être aussi dans la vision, peut-être l'espoir c'est de
Il y a beaucoup de médicaments biologiques qui sont utilisés dans, alors vous parlez de la DMLA, puisque c'est une des maladies dans lesquelles il y a des traitements biologiques, mais il y a toutes les maladies auto-immunes qu'on a évoquées tout à l'heure. Dans les cancers, vous avez beaucoup de protéines d'intérêt thérapeutique utilisé dans les cancers et aussi dans les maladies neurologiques.
Bon, en tout cas, pour le patient, ça ne change pas grand-chose.
Ça ne change rien.
Reçoit le même,
c'est le même traitement, absolument.
D'accord, donc, on parlait du contrôle, de la validation, c'est évidemment l'EMA d'abord, ensuite c'est l'HAS, j'imagine, et ensuite c'est le remboursement.
Tout à fait, oui, absolument.
Alors, on en parlait en off, la France, et bon, c'est un euphémisme, la France est en retard sur l'utilisation, la distribution des biosimilaires. Pourquoi ?
Alors, on pourrait dire d'abord que la France peut rattraper son retard. C'est vrai que si on compare l'utilisation des biosimilaires en France avec nos voisins européens, on va dire que les pays scandinaves sont au-dessus de 90%, l'Allemagne, le Royaume-Uni entre 70 et 80, l'Italie à 60, et la France est autour de 40. Donc, il y a moins d'utilisation à ce jour des biosimilaires, mais je suis optimiste parce qu'il y a des choses très positives qui ont été faites. La première chose, c'est que le ministère de la Santé a fixé un objectif. 80% d'utilisation de biosimilaires en France en 2022.
Ah oui, c'est bientôt là.
Il va falloir accélérer. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre discussion. Il va falloir accélérer sur les mesures qui vont permettre de développer les biosimilaires.
Sur des discussions au cours du PLFSS, c'est ça du...
Alors, il y a une discussion qui a démarré il y a maintenant quelques mois entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie, puisque en France, il existe aujourd'hui des incitations à destination des médecins hospitaliers de certains établissements, mais uniquement sur certaines molécules. C'est ce qu'on appelle une expérimentation qui a été mise en place il y a 2 ans, qui voulait démontrer que lorsque une partie des économies est reversée vers des médecins qui utilisent les biosimilaires, pour leur donner plus de moyens, parce qu'en fait, ce dont ont besoin les médecins pour proposer le biosimilaire aux patients, c'est du temps, c'est des moyens parfois de l'éducation thérapeutique à l'hôpital, de l'accompagnement, etc. L'expérimentation a été faite, elle a démontré que les services utilisaient plus les biosimilaires. Maintenant, il faut accélérer.
On a vu dans certains pays, il y avait des incitations financières à utiliser les biosimilaires.
Alors, ça marche très bien en Allemagne, ça marche très bien en Irlande, ça marche très bien dans d'autres pays. Le Royaume-Uni a utilisé également les incitations financières. Ce qui est important, c'est que finalement, l'argent qui revient, les moyens qui reviennent vers les professionnels, leur servent à améliorer la prise en charge de leurs patients.
Évidemment. Et c'est en fait le qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter très rapidement ?
Alors, aujourd'hui, l'incitation à l'hôpital existe, mais elle ne concerne que 3 molécules et que quelques établissements. Première proposition, c'est qu'il faut élargir cette association à tous les établissements. D'abord, élargir à tous les établissements de santé. Deuxième chose, il faut l'élargir aux médecins spécialistes libéraux. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'incitation à utiliser le biosimilaire.
Les médecins peuvent décider d'utiliser le médicament biologique ou le biosimilaire, c'est ça, hein ?
Absolument. Le médecin libéral spécialiste, le rhumatologue, le gastro-entérologue, peut proposer à son patient le biosimilaire, mais il a besoin de temps. Il a besoin de passer plus de temps pour lui expliquer, pour l'accompagner.
Évidemment.
Donc, Deuxième élément, il faut mettre en place des incitations chez les libéraux. Alors, c'est l'assurance maladie qui l'a proposé et les discussions sont en cours. Et troisième chose, il faut élargir à tous les biosimilaires. Voilà. C'est comme ça qu'on pourra réaliser les 600 millions d'économies dont vous avez parlé au tout début.
Bon, ben, on vous souhaite.
C'est la Cour des comptes, ça, hein, qui a mesuré et c'est comme
et
ça qu'on va.
Qui incite, etc. Pour l'instant, le pharmacien ne peut pas décider, évidemment.
Le pharmacien donne des conseils aux patients, mais ce n'est pas lui qui décide, c'est le médecin qui décide.
Très bien, merci beaucoup. Ben, on espère que les choses vont avancer très très vite. On a l'impression que ça va aller plutôt rapidement.
On espère.
Merci Didier Laloy. Merci beaucoup, directeur général chez Biogen. On va à présent accueillir Pascal Billy, qui est le général manager de Compex.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Pascal Billy, bonjour.
Bonjour Fabien.
Bienvenue sur le plateau de Check-up santé. Votre marque Compex, elle existe, c'est une marque à l'origine suisse, c'est ça, qui a été créée
tout à fait,
il y a quelques années.
C'est une marque qui a été créée en 1986, à la base dans le secteur médical, et aujourd'hui qui est essentiellement focalisée dans le monde du sport et du fitness.
Oui, et vous appartenez à un groupe un peu plus gros.
Oui, on appartient au groupe DGO, qui est un groupe médical, qui est spécialisé dans l'orthopédie, qui est leader mondial. Il est basé à Dallas, et on distribue effectivement dans le monde entier.
Et vous-même, hein, vous baignez dans l'univers du sport depuis plusieurs années, puisque vous avez travaillé très longtemps chez Decathlon.
Oui, un petit parcours chez Decathlon, 23 ans.
Un peu plus qu'un petit parcours, oui.
Tout à fait, et depuis un petit peu plus de 8 ans, responsable de la marque au sein du groupe DGO. Tout à fait.
Alors, Compex, principalement, c'est un des leaders dans le domaine de l'électrostimulation.
Oui, notre métier de base, c'est l'électrostimulation. On est aujourd'hui leader mondial dans la catégorie du sport et du fitness.
Ouais. Et donc du bien-être.
Et du bien-être, donc qui est le segment que l'on développe actuellement avec aussi d'autres produits et d'autres solutions.
Alors, c'est quoi exactement l'électrostimulation? C'est quoi le principe?
Le principe, c'est, on va faire une comparaison très simple. Si vous faisiez tout simplement un entraînement de musculation ou de renforcement musculaire, et ben c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu de lever des poids, et ben tout simplement vous allez travailler avec un produit qui va, on va dire, suppléer à la fois les poids et également suppléer votre décision. Donc, c'est en appuyant sur un bouton que vous allez stimuler le travail du muscle, si vous voulez.
D'accord. Et on peut le pratiquer seul ou en complément d'une activité physique ou alors pendant l'activité physique ou à la récupération? Alors,
tout est possible. Ouais. Donc, nous, on recommande plutôt d'utiliser Compex en complément d'un autre sport, mais ça peut être tout à fait un exercice que l'on fait chez soi parce qu'on n'a pas forcément le temps.
Pour les feignants.
Non, parce que nous, notre volonté, c'est vraiment de développer, de travailler très fort au niveau du renforcement musculaire, mais aussi d'être actif. Donc, toutes les solutions qu'on va proposer autour de Compex sont des solutions actives. Donc, on peut faire des exercices de quad ou d'abdominaux, etc., avec Compex, donc en étant actif, parce que pour nous c'est beaucoup plus ludique, mais aussi c'est beaucoup plus efficace.
D'accord. Et donc ça marche aussi bien pour les sports qu'on dit de résistance et les sports d'endurance.
Tout à fait. Ça convient. On a des programmes spécifiques pour les gens qui vont aller, par exemple, faire le marathon de Paris en 5 heures, tout comme pour le spécialiste du 100 mètres qui a envie de battre son record.
Mais est-ce que quelqu'un qui s'entraîne à la course ou par exemple au vélo, est-ce qu'il peut courir avec les électrodes sur lui ou?
Alors, pour la pratique avec les électrodes, on va le recommander surtout pour les sports où on va être plutôt dans un endroit fermé. Ça peut être sur home trainer, mais on ne propose pas de le faire en extérieur.
D'accord. Donc quel type de sportifs ou de personnes utilisent vos
sportifs? Alors ça va être monsieur et madame, ça va être du sportif occasionnel aux sportifs professionnels. Ouais. Donc on a des athlètes de très haut niveau qui sont aussi nos partenaires. On va toucher
beaucoup
le monde.
D'athlètes de très haut niveau utilisent l'électrostimulation.
Énormément d'athlètes de très haut niveau donc et qui nous sollicitent pour être partenaires. On a aujourd'hui trois partenaires mondiaux. Donc Pauline Ferrand-Prévot qui est une Française qui est championne du monde de VTT, on a Vincent Louis qui est champion du monde de triathlon et on a aussi Pau Capel qui est champion du monde de trail. Donc vous voyez, c'est des disciplines très très différentes, donc dans les sports d'endurance, dans le fitness, mais aussi pour monsieur, dame, tout le monde qui ont un souci de bien-être, donc plutôt les pratiques proches du wellness.
Ouais, j'imagine que vous avez de très bons retours, non? Les gens sont satisfaits de...
Les gens sont très très satisfaits.
Ouais.
Et on va dire qu'on touche de nouvelles catégories d'utilisateurs chaque année, et c'est pour ça qu'on a ouvert notre produit à de nouvelles
à d'autres produits. Non, l'avantage de l'électrosimulation, c'est que ça ne sollicite pas ou très peu les articulations, non ?
Fabien, vous êtes bien renseigné. Donc effectivement, le gros avantage de l'électrosimulation, c'est que ça vous permet de travailler plus en résistance, on va dire, ou plus en endurance, mais en réduisant les impacts sur vos articulations et vos tendons. Donc, en termes de prévention, c'est ce que recherchent aussi aujourd'hui les sportifs, les athlètes et monsieur et madame tout le monde. C'est un gros avantage.
Donc, en gros, ça marche pour la prévention, pour la musculation, pour la récupération, voire la guérison.
Oui.
Parfois de tendinite ou de problèmes musculaires.
Donc, on peut être sur la prévention. Ou post-opératoire. Hein, ou donc, les professionnels de la santé utilisent certains de nos produits ou d'autres produits de notre marque, du groupe. Mais ça peut être ensuite pratiqué par le patient, on va dire, une fois qu'il est de retour chez lui.
D'accord. Alors j'imagine que ça n'a pas l'air évident au départ. J'imagine qu'il y a des tutos, il y a des applications pour progresser avec ces appareils.
Alors finalement, si on parle de cet appareil, c'est relativement simple. Mm-hmm. Je ne vais pas vous faire la démonstration aujourd'hui. Donc, vous collez une électrode, vous placez ce module, vous l'allumez, vous lancez le programme et c'est parti. Donc, on a développé effectivement des tutos, des vidéos, etc. Et on a depuis peu lancé une application. On a plus de 150 000 utilisateurs de cette application, qui est une application gratuite, qui vous permet d'utiliser Compex au mieux, mais aussi de la façon la plus simple possible et en fonction de l'objectif que vous aurez choisi.
Oui.
Donc soit de renforcer vos abdominaux, ou soit d'aller faire votre premier triathlon dans la Seine, quand ce sera possible.
Ok, donc, à part l'électrosimulation, vous faites aussi, pour finir, d'autres produits, j'imagine, d'automassage.
Alors, donc depuis 2 ans, on a lancé une famille de produits dans l'automassage. Donc on a des pistolets de massage, comme ceci.
Comme celui-ci, oui. Hein,
donc très très simple à utiliser. Donc c'est toujours dans notre ADN, la simplicité. Donc on appuie, on allume, on tourne.
D'accord.
Et vous avez...
Et toujours pareil, des explications, des
explications,
tutos, etc.
Des tutos, mais ces produits sont relativement simples, si vous voulez. Tout simplement travailler sur les pectoraux, sur les cervicales, sur le dos, etc. C'est très très facile d'utilisation.
Et d'autres appareils d'automassage qui sont aussi, je vois que celui-ci est vibrant.
Alors celui-ci est vibrant, tout à fait. C'est un rouleau de massage pour soulager, on va dire, le dos, les quadriceps, des zones musculaires un peu plus importantes. Et ce sont des produits que vous allez facilement retrouver aussi chez vos kinés. Nos produits sont adaptés pour l'utilisateur et pour le sportif. Il y a d'autres marques qui développent ces produits.
J'imagine qu'à tous les prix...
Les prix sont... On va démarrer sur une gamme de produits à partir de 99 euros et on va monter jusqu'à 449 euros pour notre modèle Star.
Un peu plus
aujourd'hui,
évidemment, pour l'électrosimulation.
Et un peu plus pour l'électrosimulation. On va démarrer à 199 dans la gamme fitness et on va monter jusqu'à plus de 1200 euros pour le produit phare de la gamme, qui est aujourd'hui presque le produit le plus plébiscité, tout simplement parce qu'il est sans fil et qui permet de faire ces exercices combinés.
Bon, bah, génial. Alors, j'ai vu que vous diffusiez dans le monde entier.
Tout donc, à fait. On est présent
comme leader. Comme tout leader. Merci beaucoup, Pascal Villy. Merci énormément. Alors, on essaiera d'essayer vos produits. On va accueillir à présent Pierre-Xavier Franck, qui est pharmacien et qui est le directeur général du groupement Giffard.
BFM Business. Check-up santé. Au cœur de l'innovation santé.
Pierre-Xavier Franck, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur général et pharmacien responsable de Giffard. Giffard, c'est une coopérative.
C'est une coopérative, exactement, de pharmaciens d'officine. C'est du commerce associé. Nous sommes 1350 pharmaciens, tous présents en France métropolitaine.
Oui, et vous avez évidemment la fonction de pharmacien d'officine, mais vous avez aussi pas mal d'autres fonctions. Vous êtes aussi répartiteur, vous êtes aussi...
C'est un groupement pharmaceutique qui a un certain nombre de statuts pharmaceutiques. Effectivement, nous sommes fabricants, exploitants de médicaments et également distributeurs en gros, avec des activités de grossistes répartiteurs et de dépositaires pharmaceutiques. On travaille pour le compte et par ordre pour les laboratoires pharmaceutiques.
Alors, comment se sont passés ces 12 derniers mois dans vos officines ?
Ils ont été très sportifs, c'est le moins qu'on puisse dire.
On ne peut pas dire que vous n'ayez pas connu le confinement. Vous n'avez pas connu de confinement.
Ça, c'est sûr que
ni
non.
Ni même de télétravail, encore moins.
Très peu, pour tout dire. Les pharmaciens ont été sur le pont depuis le début, il faut dire les choses comme elles étaient. Il y a un petit peu plus d'un an maintenant, on a eu le premier confinement. Les pharmaciens se sont vus attribuer un certain nombre de nouvelles missions, des distributions spécifiques, je pense aux masques, aux solutions hydroalcooliques. Ils sont ensuite rentrés dans le parcours de diagnostic avec les tests sérologiques dans un premier temps, dans un deuxième temps les tests antigéniques. Et puis, voilà, arrivé fin d'année 2020, la vaccination contre la grippe.
On va justement reparler. Il n'y a pas eu de cas de burn-out chez certains pharmaciens, non ?
Ah, si, il y a eu des cas, c'était très difficile. Je veux dire, les pharmaciens sont des humains comme les autres, et parfois ça a été difficile parce qu'ils faisaient face à la maladie, face à l'agressivité aussi, ou à l'incompréhension de certains patients, qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas avoir de masque,
de gel,
pouvoir être vacciné contre la grippe. Enfin, voilà, c'est on a tout vu, et la situation n'était pas facile.
Alors, évidemment, il y a cet aspect Covid, mais pendant cette année. J'imagine que vous vendez évidemment d'autres médicaments, il y a les OTC, il y a la parapharmacie. Comment ça s'est passé au niveau des ventes ? Est-ce que ça s'est stabilisé, ça s'est écroulé, ça s'est...
On va dire que l'année 2020 a été globalement flat au niveau du chiffre d'affaires, flat inflationniste très légèrement, d'accord, si on veut être précis, avec une très grande hétérogénéité dans le réseau. Concrètement, on avait des pharmacies à forte dimension commerciale, marchande, notamment dans les centres commerciaux qui ont beaucoup souffert de la fermeture de ces centres commerciaux avec des baisses de chiffre d'affaires de 70-80%.
Et puis il y a eu moins de maladies aussi, il y a eu moins de maladies, il y a eu moins de gastro-entérite, il y a eu moins de...
Exactement, ça ce sont les gestes barrières qui ont finalement éliminé les rhinovirus, les adénovirus, les virus de gastro-entérite, les fameux rotavirus. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette hétérogénéité dans le réseau et des pharmacies de bourg ou rurales qui avant avaient tendance à souffrir se sont vraiment refait la cerise lors de cette crise, entre guillemets.
Alors vous avez toujours demandé le partage des tâches, à juste titre, vous l'avez maintenant on peut dire.
Oui.
Vous avez, vous pouvez donner des conseils, vous pouvez donner beaucoup de services, etc. Donc, au niveau de cette pandémie, au départ, donc, vous avez pu avoir ce qu'on appelle des tests Covid.
Oui.
C'était ça. Au début, c'était les fameux TROD, les fameux tests antigéniques, qui étaient relativement fiables ou pas ? Parce qu'il y a eu une certaine polémique.
Oui, non. Les tests qui ont été mis sur le marché, ils étaient bien sûr encadrés par les autorités françaises. On avait une sensibilité de 80% à minima, une spécificité de 99% pour ces tests. Enfin, je veux dire, c'était
très encadré. Donc, très important si c'était positif.
Bien sûr.
La sensibilité, c'est en cas de positivité.
Exactement. Ouais. Et je dirais que toute la difficulté, quelque part, était la bonne utilisation de ces tests. On avait globalement du bon matériel. On a vérifié la qualité de ce matériel, bien sûr. Mais ensuite, il appartenait à chacun, lors des prélèvements, d'assurer correctement ce prélèvement. C'est vrai que là, la polémique a pu naître parce que certains prélèvements n'avaient pas été assurés conformément aux bonnes pratiques.
J'imagine que vous avez été formé, etc., pour effectuer ces tests, qui sont des tests nasaux, évidemment, mais qui ne sont pas rhinopharyngés. C'est-à-dire, on ne va pas aussi profond, c'est bien ça ?
Alors, c'était des tests nasopharyngés, vraiment avec l'écouvillon d'une dizaine de centimètres, et on allait taper le nasopharynx.
Comme le PCR ?
Oui, exactement. C'est le même principe. Oui.
D'accord. Donc,
sur l'extraction, en tout cas.
Ces tests antigéniques, les TDR, les TROD, ils ont été quand même une espèce de bouffée d'oxygène, non ? Pour les pharmaciens ?
D'un point de vue
financier, point de vue économique, oui.
Financier, oui. Grosso modo, maintenant, on a des chiffres qui sont un peu consolidés. On a à peu près 50% des officines françaises qui ont assuré des tests antigéniques pour les patients français. On en a à peu près 10 400 qui ont participé. Et en termes de rémunération, on peut évaluer que la marge était de l'ordre de 12,50 € à peu près par test.
Énième étape, vous pouvez maintenant vacciner les patients.
Oui, exactement. Ça a été prévu dans le cadre d'un décret qui est sorti au tout début du mois de mars. Et c'est une nouvelle mission, encore une fois, qui est confiée aux pharmaciens.
Pas avec tous les vaccins, pour un problème de logistique, non ?
Alors, pas pour tous les vaccins en pharmacie, c'est-à-dire que les vaccins ARN, les fameux Pfizer et Moderna dont tout le monde parle, ce sont des vaccins qui se conservent en température froide, très froide, parce que c'est de la congélation, moins 20 degrés en fonction de la typologie de vaccin, et il y a une fenêtre de tir, entre guillemets, pour le stocker entre 2 et 8 degrés à chaque fois. Et donc, c'est par ce biais-là que les pharmaciens pourraient rentrer rapidement dans la démarche de vaccination des vaccins ARNm en pharmacie. Ils peuvent déjà le faire dans les centres de vaccination. Les vaccins à adénovirus, fameux ouais. AstraZeneca, vaccin Janssen par ouais. exemple, de Johnson & Johnson. Ouais. Ce sont des vaccins qui, eux, peuvent se stocker à ouais. température de 8. Et donc, le pharmacien peut, entre guillemets, dérouler la vaccination.
Et d'un point de vue logistique, vous allez pouvoir assurer justement la vaccination des patients, parce que on sait que le patient, une fois qu'il est vacciné, il doit rester quand même un peu de temps avec vous.
Oui.
S'il fait une allergie, oui. s'il fait un effet secondaire, oui.
Oui, oui, oui.
Vous avez prévu...
C'est une question d'organisation, ouais. encore une fois, de la pharmacie, de professionnalisation. Dans ces nouvelles missions, finalement, de prise de rendez-vous et de vaccination, le patient va rester à la pharmacie, effectivement, 15 minutes. Mmh. Et ça colle assez bien avec les déclarations administratives que le pharmacien doit assurer au niveau de la traçabilité du vaccin.
Donc pendant qu'il maintenant, il pourra acheter autre chose.
Tout à fait, il pourra se promener dans la pharmacie et voilà, découvrir de nouveaux rayons.
Bon, et vous serez, de toute façon, une fois, les pharmacies sont toujours près d'un centre médical en cas de problème. Donc là aussi, Giffard a formé ses propres pharmaciens.
Tout à fait. Tout à fait. Les pharmaciens se sont vraiment emparés de cette nouvelle mission, tous. Ouais. Hein. Les pharmaciens Giffard, bien évidemment, ont été formés par le biais de notre filiale de formation Hémisphère Santé. Et donc, tout le monde est prêt pour rentrer à fond dans cette vaccination, pour accroître la force, la capacité de frappe, entre guillemets, de la vaccination pour la population française qui est en attente. La seule question, ce sont les volumes de vaccins. Voilà, il faut absolument monter en charge.
Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de... Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite bonne chance à vos pharmacies, à vos pharmaciens. Et on espère que vous allez vacciner le plus possible de monde. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.